Chapitre 49. Samedi 19 décembre, l'après-midi. Jonalina passe la cinquième et file sur le 4 enneigé en direction d'Uppsala. Le service psychiatrique du Rocker est toujours en activité, malgré les importantes coupes budgétaires du début des années 1990, quand un grand nombre de personnes atteintes de troubles psychiques s'étaient vues abandonnées à elles-mêmes après avoir vécu toute leur vie dans des institutions. On leur avait offert des logements dont elles avaient été rapidement expulsées, incapables qu'elles étaient de payer leurs factures, d'allumer une cuisinière ou de fermer leur porte à clé. Le nombre d'internés avait diminué, mais les sans-abri avaient augmenté au même rythme. Après des années de politique néolibérale, la grande crise financière avait frappé, et subitement, les conseils généraux n'avaient plus les moyens de prendre en charge ces personnes. Il ne restait plus désormais que quelques institutions psychiatriques en Suède, et Ulrocker en faisait partie. Comme d'habitude, Anya a fait du bon travail. Quand Yuna passe l'entrée principale, il voit au regard de la fille à l'accueil qu'il est attendu. Elle dit simplement « Jonalina ?» Il hoche la tête et montre sa carte de police. « Le docteur Langfeld vous attend. Prenez l'escalier, c'est le premier bureau à droite dans le couloir. » Yona la remercie et commence à monter le grand escalier en pierre. Au loin, il entend des bruits sourds et des cris. Ça sent la cigarette. Une télévision est allumée quelque part. Il y a des barreaux aux fenêtres. La clinique est entourée d'un parc ressemblant à un cimetière avec des buissons noircis, battus par la pluie, et des treillages abîmés par l'humidité où serpentent des plantes noueuses. Ça a l'air triste, pense Yona. Il se dit qu'un endroit de ce genre n'est pas vraiment un lieu de guérison, c'est un lieu de cantonnement. Il arrive sur le palier et regarde autour de lui. À gauche, derrière une porte vitrée, un long couloir se profile. L'espace d'un instant, il se demande où il l'a déjà vu, puis il réalise que ce couloir est presque la copie conforme de celui de la maison d'arrêt de Kronoberg. Des rangées de portes verrouillées, des poignées en métal, des systèmes de verrous. Une femme âgée en robe longue sort par l'une des portes. Elle le regarde fixement par la vitre. Yona lui fait un bref signe de la tête, puis ouvre la porte menant à l'autre couloir. Il sent une forte odeur de produits de nettoyage, une senteur âcre qui rappelle le chlore. Le docteur Langfeld l'attend à la porte quand Yona arrive devant son bureau.
« Police ! » demande-t-il rhétoriquement en tendant une grande main charnue à Yona.
Sa poignée de main est d'une douceur surprenante, peut-être la plus douce que Yona ait jamais sentie. Le bureau du docteur Langfeld est étonnamment grand. De larges bibliothèques remplies de classeurs identiques recouvrent les murs. La pièce est dépourvue de tout objet décoratif, de tableaux ou de photographies. La seule image est un dessin d'enfant accroché sur la porte. C'est un dessin de bonhomme tétard, en vert et bleu pastel. Les enfants de 3 ans dessinent souvent les gens de cette façon, des bras et des jambes qui sortent directement d'un visage, avec des yeux, un nez et une bouche. On peut soit considérer que les bonshommes tétards manquent de corps, soit que la tête est le seul corps qu'ils ont. Le docteur Langfeld s'approche de son bureau, jonché de papier. Il enlève un vieux téléphone de la chaise visiteur et fait un geste retenu de la main à l'attention de Yona, qu'il interprète comme une invitation à s'asseoir. Le docteur le regarde d'un air pensif. Son visage est lourd et ridé. Ses traits ont quelque chose d'inanimé, presque comme s'il souffrait d'une paralysie du visage.
« Merci d'avoir pris le temps de me recevoir, » dit Yona. « C'est le week-end, d'après tout, et... »«
Je sais ce que vous voulez, »
interrompt le docteur. « Vous voulez des informations sur Lydia Evers, ma patiente. »
Yona ouvre la bouche, mais le docteur lève une main pour l'arrêter.
« Je suppose que vous connaissez le concept du secret professionnel et de la confidentialité des informations concernant les patients, » poursuit Langfeld. « Et par ailleurs,
je connais la loi, » interrompt Yona.
« Si le crime sur lequel porte l'enquête est susceptible d'entraîner une peine de plus de 2 ans de prison... »«
Oui, 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 » dit Langfeld.
Son regard est moins fuyant qu'inexpressif.
« Je veux bien évidemment vous convoquer pour un interrogatoire, » dit Yona d'un ton aimable. « Le procureur est en train de préparer un mandat d'arrêt à l'encontre de Lydia Evers en ce moment même. Nous exigerons alors évidemment le dossier médical. » Le docteur Langvelt tapote ses doigts les uns contre les autres et s'humecte la bouche.
« C'est juste que... » dit-il. « Je veux seulement... »
Il s'interrompt.
« Je veux tout simplement avoir une garantie. »
« Une garantie ?» Langvelt hoche la tête.
« Je veux que mon nom reste en dehors de cette histoire. »
Yona rencontre le regard de Langvelt et se rend soudain compte que ce qu'il avait pris pour de l'impassibilité était en réalité une peur rentrée.
« Je ne peux pas vous le garantir, » dit-il brusquement. « Si je vous supplie, je suis têtu, » explique Yona.
Le docteur s'incline en arrière. Les commissures de ses lèvres se contractent légèrement, le seul signe de nervosité ou de vie qu'il ait montré jusque-là.
« Que voulez-vous savoir ? » demande-t-il.
Yona se penche.
« Tout. Je veux tout savoir. »
Une heure plus tard, Yonalina sort du bureau du docteur. Il jette un rapide coup d'œil dans le couloir opposé, mais la femme en robe longue a disparu. Et quand il dévale l'escalier en pierre, il découvre qu'il fait déjà nuit. Il ne voit plus ni le parc, ni les treillages. La fille de l'accueil a visiblement fini sa journée. Le comptoir est vide et la porte de sortie fermée. Tout est silencieux dans le bâtiment, même si Yona sait que l'institution accueille une centaine de patients. Il s'installe en grelottant dans sa voiture et sort du grand parking de l'institution. Quelque chose le tracasse, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il tente de se rappeler le moment où ce quelque chose a commencé à le tarabuster. Le docteur avait sorti un classeur, identique aux autres classeurs qui remplissaient les étagères. Il avait tapoté légèrement la couverture et dit « La voilà ». La photographie de Lydia montrait une assez belle femme, avec des cheveux colorés au henné lui arrivant à la taille et un étrange sourire. Sous ce visage plaisant, la colère bouillonnait. Lydia n'avait que 10 ans la première fois qu'elle avait été internée. Elle avait été prise en charge pour le meurtre de son petit frère, Casper Evers. Un dimanche, elle lui avait fendu le crâne avec un bâton en bois. Elle avait expliqué au médecin que sa mère l'avait forcée à élever son frère. Casper était sous la responsabilité de Lydia quand la maman travaillait ou dormait. C'était son devoir de lui apprendre la discipline. Lydia fut internée et sa mère condamnée à de la prison pour maltraitance. Casper Evers n'avait que 3 ans.
« Lydia a perdu sa famille, » chuchote Yona.
Il met en marche ses essuie-glaces quand un bus venant en sens inverse asperge sa voiture. Le docteur Langvelt se contenta de traiter Lydia avec des psychotropes anxiolytiques, sans aucune autre forme de thérapie. Il considérait qu'elle avait agi sous la contrainte violente de sa mère. Avec son aval, Lydia fut placée dans un établissement ouvert pour jeunes délinquants. À ses 18 ans, elle disparut des registres. Elle retourna à sa vieille maison et y habita avec un garçon qu'elle avait rencontré au foyer des jeunes. 5 ans plus tard, elle réapparaît dans le dossier lors de son hospitalisation contrainte en milieu psychiatrique fermé, en vertu d'une loi désormais abrogée, pour avoir frappé à plusieurs reprises un enfant sur un terrain de jeu. Le docteur Langvelt croisa son chemin pour la 2e fois. Elle était désormais sa patiente et ne pouvait plus quitter la clinique sans une décision du tribunal. Le docteur avait raconté, d'une voix rugueuse et distante, que Lydia s'était rendue à un terrain de jeu, avait choisi un enfant, un garçon d'environ 5 ans, avait réussi à l'amener à l'écart et l'avait frappé. Elle était revenue sur le terrain de jeu à plusieurs reprises avant d'être interpellée. Le dernier incident avait été si violent que l'enfant avait failli y succomber.
Lydia fut enfermée à la clinique psychiatrique d'Ul Rocker pendant 6 ans. Elle suivait un traitement continu, expliqua Langvelt avec un sourire amer. Son comportement était exemplaire. Le seul souci avec elle était qu'elle formait constamment des alliances avec les autres internés. Elle créait des groupes autour d'elle, des groupes dont elle exigeait une loyauté absolue.
Elle se construit une famille, pense Yona en tournant sur Friedemsplan, quand soudain il se souvient de la fête du personnel à Skansen. Il envisage de prétexter un simple oubli, puis se dit qu'il doit y aller, pour Anya. Langvelt avait fermé les yeux et s'était massé les tempes avant de poursuivre.
« Après 6 ans sans incident,
Lydia a pu progressivement obtenir des permissions de sortie.
« Pas le moindre incident ?» demanda Yona.
Langfeld réfléchit.
« Il s'est passé une chose, mais on n'a jamais pu le prouver.
Que s'est-il passé ?»«
Une patiente avait été blessée au visage. Elle affirmait s'être coupé le visage elle-même, mais il y avait une rumeur selon laquelle c'était Lydia Evers qui l'avait fait. D'après mes souvenirs, ce n'était que des ragots. Il n'y avait pas le moindre fondement. »
Langfeld avait haussé les sourcils, comme s'il voulait désormais avancer dans son compte-rendu.
« Continuez !» dit Yona. « On l'a autorisée à retourner dans sa maison de famille. Elle suivait toujours un traitement, et elle était capable de se débrouiller seule. Il n'y avait aucune raison, » dit le docteur. « Il n'y avait vraiment aucune raison de douter de son réel désir de guérison. Au bout de 2 ans, il était temps pour Lydia de terminer son traitement. Elle choisit une forme de thérapie à la mode à l'époque. »
Elle suivit une thérapie de groupe avec Eric Maria Bark, compléta Yona. Langfeld hocha la tête.
Cette histoire d'hypnose ne lui fut apparemment pas très bénéfique, dit-il avec dédain. Ça s'est fini par une tentative de suicide, et Lydia s'est retrouvée chez moi pour la 3e fois.
Yonalina interrompit le docteur.
Est-ce qu'elle vous a parlé de sa dépression nerveuse?
Langfeld secoua la tête.
D'après ce que j'ai compris, tout était la faute de cet hypnotiseur.
Est-ce que vous êtes conscient qu'elle a avoué le meurtre d'un enfant à Eric Maria Bark? Demanda Lina d'un ton brusque. Langfeld haussa les épaules.
J'ai entendu dire ça, mais j'imagine qu'un hypnotiseur peut faire avouer n'importe quoi.
Donc, vous n'avez pas pris ses aveux au sérieux? Les lèvres de Langfeld esquissèrent un mince sourire.
Elle était complètement anéantie. Il était impossible de tenir la moindre conversation avec elle. J'ai dû lui administrer des électrochocs, de lourds neuroleptiques. Ce fut un immense travail de simplement recoller les morceaux.
Vous n'avez donc même pas cherché à vérifier les fondements de ses aveux?
J'ai supposé qu'il s'agissait de sa culpabilité par rapport au petit frère,
répondit Langfeld d'un ton sévère.
Quand l'avez-vous relâché?
Demanda-t-il.
Il y a 2 mois, dit Langfeld. Il n'y avait plus aucun doute sur sa guérison.
Yona se leva et son regard tomba de nouveau sur la seule image dans le bureau du docteur Langfeld, le dessin du bonhomme tétard sur la porte.
Une tête sur des pieds, se dit-il soudain. Juste un cerveau, pas de cœur.
C'est vous là-bas? Dit Yona en désignant le dessin. N'est-ce pas?
Le docteur Langfeld sembla déconcerté. Yona sortit de la pièce.